pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le constat est sans appel. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'année 2016 a battu tous les records de température. La banquise a été exceptionnellement réduite, la hausse du niveau de la mer et le réchauffement des océans se poursuivent à un rythme soutenu. Tous ces faits scientifiques ont des conséquences dramatiques pour certains pays, et oui, déjà, comme nous le verrons aux Philippines dans la deuxième partie de l'émission. Face à cette situation, l'arrogance de Donald Trump est-elle dangereuse et sommes-nous partis vers une série de catastrophes en cascade, ou y a-t-il des bonnes nouvelles? Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du commissariat à l'énergie atomique et vice-présidente du groupe 1 du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Alors, est-ce que le bilan de l'année 2016 par l'Organisation météorologique mondiale, dont je dressais les grands traits à l'instant, vous a surprise ?
Non, c'est l'Organisation météorologique mondiale, elle passe en revue l'ensemble des travaux qui permettent de faire ce suivi de l'état du climat. Et dès le début de l'année dernière, on a vu que, pour reprendre les termes de l'OMM, on entrait en territoire inconnu. Donc c'est une année qui a été remarquable, aussi bien pour le réchauffement à la surface de la Terre, qui est important puisque nous habitons à la surface de cette planète, qui a encore une fois battu les records, faisant suite à 2015 et 2014. Ça a été également une année spectaculaire du côté de l'Arctique, où on a eu un réchauffement très prononcé, en particulier cet automne, avec une succession d'arrivées de tempêtes extratropicales, et puis de phénomènes amplificateurs qui ont conduit à un recul très prononcé de la glace de mer. Pour la première fois depuis très longtemps, on voit aussi cette année un recul important de la glace de mer autour de l'Antarctique, donc du côté des deux pôles en même temps. C'est aussi une année où on a eu des événements météorologiques extrêmement intenses, donc des vagues de chaleur, des phénomènes de pluie torrentielle, et puis également dans certaines régions des tempêtes très fortes. Comme le disait l'OMM, on rentre en territoire inconnu.
Est-ce que les conséquences des changements climatiques commencent à s'emballer ?
Le terme n'est pas s'emballer parce qu'en fait, si on regarde rétrospectivement et qu'on reprend les premières projections d'évolution future du climat qui avaient été faites avec les premiers modèles qui représentent l'océan et l'atmosphère, dès les années 80, on voit que les observations confirment ce qui avait été attendu. Donc à l'époque, ce qui avait été fait, c'est plusieurs scénarios en fonction des rejets de gaz à effet de serre. L'évolution des dernières décennies était plutôt sur les scénarios hauts, intensifs en énergie fossile, et la réalité confirme ce qui était attendu théoriquement à l'époque, c'est-à-dire un réchauffement plus prononcé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans. Au-dessus des continents, il faut bien voir qu'on atteint 1,5 degré de plus que le climat du 19e siècle. En moyenne, pour l'ensemble de la Terre, c'est de l'ordre de 1 degré. On attendait aussi un réchauffement plus prononcé autour de l'Arctique, 2 à 3 fois plus rapide que la moyenne planétaire, c'est ce qui est observé. On attendait aussi de voir une rentrée d'énergie dans les océans, en surface et puis en profondeur. C'est aussi ce qui est observé maintenant qu'on a un réseau de mesures qui permet de le suivre.
Mais alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle de savoir que ce qu'on avait prédit se réalise.
Ça donne confiance dans notre capacité à comprendre le fonctionnement du climat global. C'est un point qui est important. On aurait aimé se tromper peut-être sur ce sujet-là. En fait, le fonctionnement est quand même assez simple. En rajoutant des gaz à effet de serre, on empêche de la chaleur de partir vers l'espace. Et du coup, cette chaleur s'emmagasine dans la machine climatique. Donc elle réchauffe l'air en surface, les océans en surface et puis en profondeur. Elle réchauffe les sols, elle fait fondre les glaces. Dans un climat plus chaud, on va renforcer l'intensité des vagues de chaleur. Et puis une atmosphère plus chaude peut transporter plus d'humidité. C'est vraiment la physique de l'atmosphère. Et donc le même événement de tempête ou d'orage va donner des cumuls de pluie plus importants dans un climat plus chaud qu'il y a simplement quelques dizaines d'années.
Alors justement, ce week-end, il y a eu une coulée de boue qui a tué 272 personnes et fait près de 300 blessés dans la ville de Mocoa, en Colombie. Cette coulée de boue est le résultat de pluies extrêmement abondantes. Les explications de Chloé Nabédian, qui est présentatrice météo sur le plateau de France 2.
La situation est critique en Colombie depuis plusieurs jours déjà. Des précipitations avec, c'est vrai, une aggravation. Il est tombé 130 mm de pluie. C'est l'équivalent de 10 jours pour cette région. Et ces pluies sont dues à un phénomène un petit peu plus global qui s'appelle le phénomène El Niño. Vous savez, ce sont ces fameux alizés qui faiblissent, s'inversent et poussent cette anomalie chaude de l'Australie vers l'Amérique latine, ce qui développe un véritable réservoir de chaleur, de vapeur qui donne lieu à des orages. Et ces orages sont ensuite bloqués au niveau de la cordillère tiers des Andes au niveau donc de l'Amérique latine. Et c'est pour ça que ces pluies torrentielles se déversent en Colombie, mais pas seulement. C'est le cas également du côté de l'Équateur ou encore du Pérou, avec l'équivalent de 7 ans de pluie en l'espace de 2 mois seulement. Une situation qui va donc rester critique pendant de nombreux jours.
Valérie Masson-Desnoites, la climatologue que vous êtes, n'aime pas, hein, par prudence scientifique, faire le lien direct entre un événement ponctuel et les changements climatiques. Mais est-ce qu'il y a tout de même une influence ?
Alors, pour l'instant, moi, j'ai pas encore vu d'analyse approfondie de cet événement spécifique de pluie torrentielle. Il faut préciser que quand on rajoute de l'énergie dans le système climatique, avec des eaux de mer plus chaudes, on peut favoriser à la fois l'évaporation et des mouvements d'air plus violents. Et puis, quand l'air est plus chaud d'environ 1 degré, il peut transporter à peu près 7% d'humidité en plus. Donc, il y a vraiment un fonctionnement physique qui relie le réchauffement des eaux de mer de l'air et la capacité à renforcer l'intensité de pluie torrentielle. Donc, cette année, on n'est plus dans une situation avec un fort événement El Niño comme l'année dernière. C'est une situation un peu hybride. On dirait qu'il y a un petit événement El Niño qui a l'air de démarrer, mais les collègues climatologues restent encore très prudents. Et ce que j'ai également compris d'une discussion la semaine dernière avec des collègues de Colombie, justement, lors d'une session plénière du GIEC au Mexique, c'est le fait que ces pluies torrentielles ont des effets d'autant plus importants qu'on a déforesté et donc qu'on a perdu la capacité des plantes à absorber une partie de cet excès de précipitation. Et donc, dans ce type d'événement, il y a parfois une dimension de hasard, hein, l'occurrence de l'événement, qui peut être renforcée par l'effet du réchauffement climatique. Et il y a aussi tout l'aspect de la gouvernance pour gérer l'écoulement des eaux, qui peut parfois se juxtaposer et donner lieu à des catastrophes, comme on l'a vu.
Oui, par exemple, une urbanisation anarchique, hein, des gens qui s'installent dans des zones inondables. Il y a en Colombie tout un débat aujourd'hui pour dire que peut-être que ces catastrophes étaient prévisibles. Donc c'est vrai que tout n'est pas la faute du changement climatique.
C'est d'ailleurs que la même chose dans le sud-est de la France. On observe aussi une augmentation des records sur les pluies torrentielles d'automne. Mais l'impact de ces pluies torrentielles, c'est pas que la quantité de pluie, c'est aussi l'urbanisation, la gestion de l'eau. Et tout ce qui fait partie des politiques publiques.
Alors justement, nous recevons de nombreux messages d'Afrique de l'Ouest, hein, et d'Afrique centrale, c'est normal, sur RFI, qui nous demandent si la modification des dates des cycles de pluie ou la hausse des températures ressenties, hein, sont dues au changement climatique et quelles seront les tendances à venir. Bon, évidemment, vous êtes scientifique, ça nécessite des heures et des heures de conférences pour répondre à une question comme celle-là, mais est-ce que vous pouvez tout de même expliquer en quelques mots si ce que ressentent les auditeurs et une réalité?
Alors sur l'augmentation des températures, oui, bien sûr. Dans le monde entier et au-dessus de tous les continents, on détecte un réchauffement qui sort de la variabilité naturelle du climat, qui est d'autant plus perceptible dans les régions tropicales parce que la variabilité de la température d'une année à l'autre y est plus faible qu'aux moyennes ou aux hautes latitudes. Et là, il y a une composante due à l'influence humaine qui est très nette et qui est démontrée. Du côté des changements de précipitation, c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, la mousson d'Afrique de l'Ouest, elle a une variabilité très forte d'une année à l'autre, mais également sur plusieurs décennies, comme on l'a vu avec l'évolution des pluies au Sahel. Cette variabilité, elle est en particulier liée à une organisation des courants de surface du côté de l'océan Atlantique. Et donc, arriver à distinguer l'influence humaine d'une part de ces mécanismes de variabilité naturelle reste très délicat. Et la même conclusion a été récemment publié par le site de climatologue qui s'appelle Climate Central pour les sécheresses très prononcées du côté de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Il reste encore très difficile de discerner l'influence humaine de la variabilité spontanée dans ces régions.
Mais en même temps, on dit souvent que l'Afrique fait partie des continents les plus impactés par les changements climatiques. Pourquoi est-ce qu'on lit ça ou on entend cela ?
Alors, l'Afrique fait partie des continents où une grande partie de la population dépend d'une agriculture au quotidien. Donc c'est effectivement une population qui est particulièrement exposée à la variabilité du climat, mais aussi au changement climatique. Les projections, par exemple, sur la production agricole montrent des risques importants pour un réchauffement relativement modeste.
En fait, plus on est dépendant des ressources naturelles, plus l'impact est important.
Oui, il y a cette dimension-là. Il y a aussi la dimension des systèmes d'assurance qui permettent de mutualiser les risques qui ne sont pas présents dans beaucoup de régions d'Afrique, alors qu'ils existent ou qu'ils se développent dans d'autres régions. Ce qui a été également mentionné, c'est pour l'Afrique, parfois, des connaissances de terrain qui existent, mais qui ne sont pas toujours disponibles pour l'aide à la décision. Et il y a également cette difficulté particulière qui est de pouvoir mobiliser les connaissances pratiques de terrain, les connaissances scientifiques, de les faire converger pour aider justement à, à construire une résilience, c'est-à-dire faire face à la variabilité du climat mieux et être mieux préparé par rapport au changement climatique lié à l'influence humaine.
Allez, c'est le week-end sur RFI. On fait une petite pause musicale. Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en compagnie de la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Après l'enthousiasme suscité par l'accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques, enthousiasme justifié puisqu'il est aujourd'hui ratifié par plus de 140 pays, c'est l'interrogation qui domine dans la communauté internationale. Depuis que Donald Trump, c'était la semaine dernière, a signé un décret sur l'indépendance énergétique qui ordonne un réexamen de la mesure phare de Barack Obama, le Clean Power Plan, le projet pour une énergie propre en français, on écoute Donald Trump.
On peut avoir la sécurité, on peut avoir de l'eau propre, on peut avoir de l'air non pollué, mais trop de régulation, ça n'est pas nécessaire et cela détruit des emplois. On doit se séparer des mauvaises réformes. L'une après l'autre, nous respectons nos promesses et nous remettons le pouvoir entre les mains du peuple. Premièrement, la nécessité de l'indépendance énergétique appelle à une réévaluation immédiate du Clean Power Plan. Peut-être qu'aucune réforme ne menace autant nos mineurs, nos travailleurs du secteur énergétique et nos entreprises que cette attaque frontale contre l'industrie américaine. Deuxièmement, nous levons l'interdiction concernant la loi fédérale sur la production de charbon. Troisièmement, nous levons les restrictions concernant les disparitions d'emplois relatives à la production de pétrole, au gaz naturel, au charbon propre et au gaz de schiste. Pour finir, nous souhaitons que les États reprennent leur pouvoir, car ce pouvoir leur appartient. Les États et les communautés locales savent mieux que personne ce qui est le meilleur pour eux. Ils ont compris, ils savent, ils ont géré leurs droits pendant des années. On les leur a retirés et ces droits ont été mal gérés. Nous allons donc leur rendre le pouvoir de décider. And will now empower to decide. Ce que je fais aujourd'hui est la dernière action d'une longue série pour créer des emplois et faire prospérer les États-Unis. Nous arrêtons le vol de la prospérité américaine et rebâtissons notre nation bien-aimée. Nous avons approuvé le permis pour finalement construire le pipeline Keystone XL et dégager la voie pour l'installation du pipeline du Dakota. Cela créera des milliers et des milliers d'emplois. Of the Dakota Access Pipeline,
thousands and thousands of jobs. Bah évidemment, ce n'est pas dans ce studio que nous allons applaudir ces propos de Donald Trump. Valérie Masson-Delmotte, en tant que vice-présidente du GIEC, vous avez un devoir de réserve sur la politique américaine. Mais quand même, ce genre d'attitude, ça envoie un signal extrêmement négatif à l'échelle du monde.
Peut-être qu'en commençant par du positif, effectivement, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris en 2016, beaucoup plus tôt que ce qui était pressenti, c'est une bonne nouvelle. Et on voit un certain nombre de pays qui se motivent, qui se mobilisent pour construire leur stratégie nationale pour l'adaptation, la réduction des rejets de gaz à effet de serre et la ratification de l'accord de Paris. Ça, c'est plutôt du côté des bonnes nouvelles. Si on veut stabiliser l'évolution future du climat pour en limiter les risques, la seule solution possible, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent le plus vite possible un maximum et ensuite diminuent très fortement. Et il y a un ensemble de solutions pour le faire, en particulier le développement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Il y a des pistes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'agriculture, les transports, le bâtiment, l'électricité, etc. Donc là, on a l'impression de voir ressortir plutôt les vieilles recettes, hein, c'est-à-dire les énergies fossiles, charbon et pétrole. Et pourtant, quand on regarde dans le monde entier, ce qui est frappant, c'est la baisse du prix de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. Aux États-Unis, le développement de ces énergies renouvelables qui créent beaucoup plus d'emplois que l'exploitation des énergies fossiles. Dans beaucoup de pays, des appels d'offres qui sont ouverts pour des centrales de production d'électricité où les solutions à partir de renouvelables ou de gaz en sont beaucoup plus performantes que les solutions à base de charbon. Et donc, ce sont ces solutions qui se développent parce que c'est économiquement viable et en même temps bien meilleur en termes d'environnement.
Mais d'ailleurs, les villes, hein, il y a une trentaine de villes, dont New York, Los Angeles, Chicago ou San Francisco, qui ont réagi à ces propos de Donald Trump en annonçant qu'elles étaient prêtes, elles, à dépenser à l'inverse des milliards de dollars dans la transition énergétique et notamment dans les véhicules électriques. Il y a aussi les entreprises américaines qui se mobilisent, même ExxonMobil, ça paraît incroyable, mais qui a écrit à Donald Trump en disant « attention, ne faites pas n'importe quoi ».
Ben moi, j'étais la semaine dernière à une réunion plénière du GIEC avec les délégations des différents pays et il fallait entendre par exemple les habitants des îles vulnérables exprimer leur grande préoccupation par rapport aux dommages causés par le réchauffement climatique et ses conséquences dès aujourd'hui, et ce sont des enjeux vitaux. Donc la position d'une administration, même d'un des plus grands pays, qui nie la réalité et la réalité scientifique est difficile à tenir sur la scène internationale. Et un certain nombre de multinationales l'ont bien compris, ça peut aller contre leurs propres intérêts.
Et pendant ce temps-là, le GIEC continue son travail. J'imagine que vous travaillez sur le rapport qui est attendu, hein, de quelles seront les conséquences planétaires d'un réchauffement à 1,5 degré et comment tenir cet objectif qui est celui de l'accord de Paris.
Oui, alors on a mobilisé 86 auteurs pour rédiger ce rapport. Ils se sont réunis pour la première fois au Brésil le mois dernier. Ils vont examiner à la fois les trajectoires permettant de stabiliser l'évolution du climat à 1,5 degré par rapport au climat pré-industriel, c'est-à-dire 1,5 degré de plus qu'aujourd'hui. Ils vont examiner également les impacts supplémentaires associés à ce réchauffement supplémentaire et les impacts évités par rapport à des scénarios où on n'arrive pas à stabiliser l'évolution future du climat. Et cela dans le contexte plus large du développement durable, des efforts pour éradiquer la pauvreté et pour lutter contre les inégalités. Donc c'est pas uniquement des sciences du climat qui vont être mobilisées, c'est bien plus large et c'est vraiment une réflexion autour de la capacité de transformation de la vitesse à laquelle on est capable de mener à bien ces transformations et des conditions de leur réussite. Et je voulais souligner que pour ce premier rapport du sixième cycle du GIEC, on a 50% d'auteurs de pays développés, 50% d'auteurs de pays en développement, 38% de femmes, et c'est une grande fierté d'avoir repéré et motivé finalement les meilleurs experts du monde entier pour apporter cette diversité de points de vue.
Mais est-ce que c'est réaliste de travailler sur 1,5 degré? Vous disiez tout à l'heure, on est déjà à plus 1 degré, voire plus 1,2 par endroit.
Alors c'est une mesure à l'échelle planétaire, hein. Bien sûr, 1,5 degré de réchauffement en moyenne globale, ça veut dire plus au-dessus des continents, beaucoup plus, hein, 2 à 3 fois plus pour l'Arctique par exemple. Donc c'est un indicateur qui est celui que tout le monde utilise,
hein, on y est presque,
pour le réchauffement à échelle globale. On n'en est pas loin, mais finalement les questions qui se posent sont les mêmes si on veut stabiliser en dessous de 2 degrés. À un moment donné, il y a cette question des risques supplémentaires et des risques évités. Et ensuite, il y a la question de la transformation. Si on prend les promesses qui ont été faites pour l'accord de Paris, on voit qu'à horizon 2025 ou 2030, ça implique une graduelle stabilisation des rejets mondiaux de gaz à effet de serre. Comment renforcer cet effort? Quelles sont les options d'action? Quelles sont les conditions de mise en œuvre pour qu'au lieu qu'on ait une stagnation, on ait vraiment une diminution nette des rejets de dioxyde de carbone, qui est le gaz à effet de serre qui a l'effet sur le climat le plus important, mais il n'est pas le seul.
Eh bien, nous attendrons ces rapports. Je vous dis à bientôt, alors.
Merci.
Merci, Valérie Masson-Delmonte, d'être passée dans C'est pas du vent. Restez sur RFI. Vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous irons voir, justement, comment les Philippines, l'un des pays, là aussi, très impactés par les changements climatiques, tentent de s'adapter. À tout de suite.